RCF.
Frère Xavier Loupinet, je rappelle que vous êtes aumônier de la pastorale des sourds et malentendants de Nancy. Je précise également que vous êtes référent de la coordination pastorale des sourds de France et vous êtes l'auteur d'un livre aux éditions du Cerf qui s'intitule « Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre ». Vous avez précisé précédemment qu'il s'agit d'une phrase du prophète Isaïe. Justement, arrêtons-nous sur les Écritures. Dans quelle mesure est-il question de surdité et des sourds, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, frère Xavier Loupinet ?
Quand on établit un dossier biblique sur une question, c'est toujours important de voir la première référence, parce que dedans, il y a toujours le germe de ce qui va suivre. Et la première fois qu'on parle de sourds dans la Bible, c'est dans Exode, chapitre 4.
Donc, dans le livre de l'Exode.
Livre de l'Exode, et c'est Dieu lui-même qui en parle, à Moïse qui dit « Écoute, ne m'envoie pas vers Israël, moi je ne sais pas parler, je suis lourd de langue. » Donc on pense qu'il est bègue, dit la tradition. Donc Moïse dit « Écoute, moi je suis un handicapé de la parole, c'est pas la peine de m'envoyer. » Et Dieu répond, un peu fâché, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Dieu ?» Donc comme si Dieu et la parole, c'est son affaire. Donc si moi je t'envoie, c'est que je sais ce que je veux faire. Et Moïse va se défausser quand même, et un peu de guerre lasse, Dieu dit bon, j'envoie Aaron, puisque tu dis que Dieu ne sait pas parler, je vais envoyer Aaron ton frère.
En tout cas, il est question de sourds là.
Oui, pour la première fois, et c'est pour stimuler Moïse, pour dire vas-y, annonce ma bonne parole. Donc c'est les sourds et la bonne parole, la bonne nouvelle, la libération sont liés. Et on va le retrouver après avec Jésus. Quand Jésus va guérir un sourd, c'est Marc au chapitre 7, là tout le monde va comprendre. Isaïe nous avait prévenu, en ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre, les paroles du livre. En ce jour-là, ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est donc Jésus.
Avant d'en venir à Jésus, est-ce que dans l'Ancien Testament, après ce passage dans le livre de l'Exode, il y a d'autres moments un peu caractéristiques de cette réalité-là.
Il y a un mystérieux passage, c'est également dans le livre de l'Exode, où dans la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu sur le Sinaï, il y a cette phrase qui intrigue beaucoup les commentateurs, c'est « Et alors tout le peuple d'Israël vit les voix ». C'est-à-dire il voit la parole de Dieu. Donc, ils ont conclu que la parole de Dieu s'était rendue visible. Donc là, il y a quelque chose de aussi un peu messianique, c'est que dans le peuple futur, tout le monde aura accès à la parole, hein, par tous les sens. Et là, il y a, au sens technique, une forme de synesthésie, c'est-à-dire de voix, parole, visuel sont liés. Et ce qui est original dans le monde des sourds, c'est que la parole se rend visible.
On passe au Nouveau Testament, où là, il en est plus question ou pas forcément.
Il y a ce passage clé de Marc 7.
Quand vous dites Marc 7, c'est l'évangile de Marc.
Marc chapitre 7.
Au chapitre 7, pour les auditeurs qui ne seraient pas tout à fait familiers de ce vocabulaire.
Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce miracle, c'est un miracle laborieux de la part de Jésus. C'est-à-dire, il y a des miracles qui se font facilement. Va, ta foi t'a sauvé, je pose les mains. Et là, pour guérir un sourd, Jésus paye de sa personne, il l'emmène à l'écart, donc pour une relation individuelle, il met ses doigts dans les oreilles, avec sa salive, il touche la langue du sourd, et il dit « Ephata, ouvre-toi ». Et donc, grâce à ce sourd, d'ailleurs, on a un des rares mots dans la langue maternelle de Jésus. Tout le reste de l'évangile est en grec, donc c'est une traduction de ce qui s'est passé, mais là, on a un mot véritablement prononcé par Jésus dans sa langue maternelle. Donc, ouvre-toi, et les oreilles du sourd s'ouvrent, et il peut parler correctement. Un peu après, il y a la guérison d'un aveugle, également annoncée par Isaïe. Et au milieu, ce qui est un peu étrange, c'est que Jésus dit à ses disciples, « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. » Donc, comme si il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Et ça, on le sait. Donc, quand Jésus a guéri un sourd, il pose un acte symbolique extrêmement fort, qui est de dire « Maintenant, tout le monde a accès à la parole de Dieu, qui est moi. »
Est-ce qu'il y a d'autres passages dans d'autres évangiles qui parlent de surdité ?
Il y a des malades épileptiques qui sont muets. Donc, un démon qui rend muet, mais sinon, non, c'est le seul, mais qui arrive à un passage, à un moment clé.
En tout cas, il est question dans plusieurs textes de guérison ou d'exemples de personnes qui sont purifiées ou qui recouvrent la vue, l'ouïe, qui en, les sourds entendent. Ça, ça revient souvent quand même. Enfin, plusieurs fois.
Oui, ça revient souvent. Ce que l'on peut citer, c'est Romains 10, hein, où Paul a une expression qui malheureusement va être mal comprise quand il dit « la foi vient de ce que l'on entend ». C'est-à-dire, il veut dire par là, c'est on ne peut pas penser à Dieu, prier Dieu, si on n'a pas un jour entendu la bonne nouvelle nous être annoncée. Et cette phrase, hein, « la foi vient de ce qu'on entend », en latin « fides ex auditu », a été comprise pendant des siècles en disant « si tu n'as pas l'audition, la foi, ce n'est pas possible ». Donc, Augustin a lui-même fait une interprétation un peu dans ce sens. Donc, pendant des siècles, hein, les sourds et la foi, pour l'Église, c'était compliqué en disant « comment on fait, en fait ?» Puisque Paul a dit « la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu ». Et puis jusqu'à un peu la révolution des temps modernes, qui est de dire ben, « il y a tellement de manières d'annoncer la parole de Dieu ».
Est-ce que la surdité, comme d'autres types de handicap, a pu être considérée non seulement au temps de Jésus, mais longtemps dans la tradition et dans l'Église, comme une forme de malédiction ?
Oui et non, c'est-à-dire il y a plusieurs apparitions mariales où Marie choisit des muets pour les libérer. Et là, on se dit, cette personne n'a pas parlé pendant 20 ans. Et là, cette fois, elle parle, donc ça vient du ciel. Hein. Donc là encore, les sourds sont utilisés par Dieu comme des moyens d'expression extraordinaires. Je dirais pas tellement comme malédiction, mais comme un mur, c'est-à-dire comment on fait, hein, une forme d'impuissance, un handicap partagé, hein, c'est-à-dire comment je fais pour... Et malheureusement, souvent le monde de la sourdité a été associé à l'idiotie, hein, au sens technique du terme, c'est-à-dire comme il ne peut pas s'exprimer, comme il ne peut pas nous comprendre, on pensait
qu'il est limité.
Un handicap mental. Ouais. Voilà, il est limité, ce qui est absolument faux. Hein. Un sourd peut être absolument très intelligent.
Ce qui est intéressant dans les textes que vous avez évoqués, notamment concernant le rapport que Jésus entretient avec les personnes malades ou handicapées qu'il rencontre, c'est le côté très incarné, très charnel. Il met ses doigts dans les oreilles, il oui. touche la langue. On est vraiment dans une religion, est-ce qu'on le dit assez, du corps, une religion incarnée. Le Christ n'avait pas peur des corps, des organes. Il y allait,
vous
quoi.
Avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que je pense que le sourd a forcé Jésus à être ce qu'il est, c'est-à-dire un verbe fait chair. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette rencontre, c'est que Jésus a dit, cette fois-là, je suis obligé d'y aller. Et il savait qu'en guérissant un sourd, il était déclaré Messie, et que déclaré Messie, il irait sur la croix. Donc il y a une forme de dire, maintenant, il faut que j'y aille. Il va au front en guérissant ce sourd. Et vous dites une religion incarnée, absolument. Hein. Les sacrements sont incarnés. Pour qu'un sacrement ait lieu, il faut qu'il y ait contact. Et vous voyez, quand dans le rituel du baptême, il y a la possibilité pour le prêtre de toucher la langue du petit, ou du grand d'ailleurs, hein, de toucher ses oreilles, et de lui dire « Ephata », donc de reproduire cette incarnation, cette guérison très incarnée lors du sacrement. Tout sacrement, c'est une rencontre peau. Quand je dis peau, c'est-à-dire c'est un signe spécifique à langue des signes, c'est-à-dire on prend la joue dans ses doigts et on la serre. Donc c'est pour dire « j'ai rencontré quelqu'un, peau », et on dit avec les lèvres « peau, peau », et on comprend que c'est une rencontre en réel, en chair et en eau, comme on dirait maintenant. Et Dieu, par Jésus, nous a rencontrés peau, c'est-à-dire en chair et en eau. Et tout sacrement, c'est une rencontre aussi incarnée. Hein. Un sacrement n'est jamais uniquement une réflexion ou quelque chose de loin. C'est toujours un
qui engage le corps. Avec de l'eau, avec de. On parlait pour commencer
de l'eau, de l'huile,
Oui, et puis l'odeur
la
aussi,
salive.
l'odorat,
Oui,
l'encens.
l'encens, absolument. On a une religion extrêmement incarnée. Et ce sacrement de la messe, qui est un repas, c'est juste fascinant. C'est-à-dire, c'est une réalité quotidienne absolument perceptible. Personne ne peut vivre sans repas. Et là, c'est Dieu qui se rend présent, comestible parmi nous.
Est-ce que au fond, le corps, Dieu vit que cela était bon?
Oui, ah oui. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que le premier contact que les sourds ont avec Dieu, c'est la création. C'est-à-dire, en général, les sourds, pour faire comprendre qui est Dieu, il suffit de leur dire, mais qui a fait ça? Et on leur montre la nature et ils ont un grand feeling pour la beauté du monde, parce que le visuel est extrêmement, évidemment, essentiel pour eux. Ils ont un feeling pour les animaux. Hein. Un sourd et un animal, il y a une communication qui est largement supérieure à la nôtre. Et comme Dieu a créé le monde, les sourds ont le sens de la beauté du monde et de la grandeur du Créateur.
Et de la contemplation.
Et de la contemplation.
On vous
Oui.
retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.
À demain. Merci.